Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le procès de l'Arix de Cisco, le reflet également de tensions identitaires toujours palpables en Corse. 5 personnes doivent comparaître aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bastia pour les affrontements qui ont eu lieu le mois dernier sur cette plage à Cisco. Une question en suspens, celle du dépaysement du procès.
Barreau d'honneur contre la loi travail, les syndicats organisent ce jeudi une dernière journée de grève et de manifestation dans toute la France pour réclamer l'abrogation du texte.
Dans l'actualité également, la visite à Paris d'Angela Merkel, le couple franco-allemand prépare le sommet des 27 demain à Bratislava. En Syrie, les ONG attendent désespérément de pouvoir acheminer une aide humanitaire à la population pendant la trêve relative des combats. Et puis aux États-Unis, alors qu'Aung San Suu Kyi est à Washington, Barack Obama annonce la levée prochaine des sanctions visant la Birmanie. Des activistes birmans préféraient, eux, les maintenir pour inciter les militaires à changer de comportement. À 7h12, le billet éco, Guillaume.
Marie Viennot reviendra sur le rachat de Monsanto par Bayer. Le sujet du jour, les politiques sont-ils perdus pour la vérité? Et la question du jour, est-il possible juridiquement d'enfermer les fichiers S?
Une bagarre qui dégénère en quasi-lynchage, des images de voitures brûlées désormais associées à Cisco, petit village du Cap Corse situé au nord de Bastia. C'est une affaire de Rix qui s'est déroulée le mois dernier, qui doit être jugée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Bastia. Beaucoup de fantasmes au départ, on avait évoqué des violences entre communautés corse et maghrébines, à la vue d'un burkini qui n'a en fait jamais existé. L'enquête des gendarmes a plutôt mis en évidence une tentative de privatisation de la crique et des violences suivies par la réaction enflammée des villageois. Aujourd'hui, 5 personnes sont poursuivies pour violences volontaires aggravées. D'un côté, 2 villageois de Cisco, de l'autre, 3 autres Corses, des frères d'origine marocaine. Leurs avocats ont demandé le dépaysement du procès, Marie-Pierre Véraud.
C'est parce qu'ils craignent, disent-ils, pour la sécurité de leurs clients que les avocats des frères marocains poursuivis pour violence avec armes ont demandé le dépaysement du procès. Ils pointent l'ingérence du pouvoir politique corse et un contexte local de tension. Alors il est vrai que les élus nationalistes ont annoncé leur venue au tribunal, que les soutiens des 2 villageois de Cisco qui doivent répondre de violence sont mobilisés et que les réseaux d'extrême droite s'en sont mêlés. Mais il serait très étonnant que le procureur général de Bastia accorde ce dépaysement. Cela reviendrait à dire que la justice corse ne peut sereinement débattre d'une rixe, fût-elle sensible, puisqu'elle a opposé des Corses d'origine maghrébine à d'autres Corses. Une lamentable affaire, avait commenté le procureur à l'issue de l'enquête. Il n'y avait pas de burkini à Cisco, pas de personnes radicalisées d'un côté et de méchants racistes de l'autre, mais des voyous qui ont voulu privatiser une plage dans une logique de caïda et des villageois mus par un instinct grégaire. Pour autant, le lendemain, un défilé de plusieurs centaines de personnes au cri de « On est chez nous » avait ciblé un quartier populaire de Bastia, ce qui a ravivé les tensions 8 mois après une manifestation émaillée d'injures racistes à Ajaccio qui avait entraîné l'incendie d'une salle de prière musulmane après le caillassage de pompiers dans un quartier. Des manifestations qui n'ont pas fait l'objet de poursuites jusqu'à présent. Pour l'Arix de Cisco, si la demande de dépaysement a été rejetée, les avocats pourraient déposer un recours auprès de la Cour de cassation, ce qui entraînerait fort probablement un report de l'audience dans l'attente qu'elle se prononce.
Marie-Pierre Véraud qui évoquera plus longuement le climat en Corse à l'occasion de ce procès dans le journal de 7h30 pour le choix de la rédaction. La 14e journée nationale de mobilisation contre la loi travail depuis le mois de mars. Manifestation à partir de 14h cet après-midi à Paris entre les places de la Bastille et de la République. Un mot d'ordre, l'abrogation du texte promulgué le 8 août dernier au journal officiel. La CGT, FO, la FSU, Solidaire et des syndicats étudiants et lycéens appellent à faire grève. Après la pause estivale, la loi El Khomri a été débattue et combattue encore tout ce week-end à la fête de l'humanité, sous les applaudissements des candidats à la primaire de gauche, des frondeurs aux écologistes. Mais depuis, l'enthousiasme unitaire semble être retombé. Les chefs frondeurs n'y seront pas à cette manifestation, pas plus que Jean-Luc Mélenchon. L'analyse de Laurence Perron.
Ils l'ont tous clamé, c'était là l'exemple parfait de la convergence des luttes. Le candidat du Made in France a promis de revoir la copie El Khomri, les frondeurs ont tenté la motion de censure, les écologistes sont pour l'abrogation, tout comme les communistes et les insoumis. Et puis dimanche, à La Rochelle, Gérard Filoche leur a lancé ce défi. Allez, tous ensemble à la manif, mêlons nos drapeaux à ceux du NPA ou du parti de gauche. Là, on a senti des regards gênés. Hier, en faisant le tour des QG, à l'exception de Marie-Noëlle Lienemann, des Verts et des lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, les réponses fermes se faisaient rare. Arnaud, ce n'est pas prévu, mais attendons demain. Benoît, on a une réunion, on se rappelle plus tard. Christian Paul, le chef des fondeurs, envoie un texto. Solidarité totale, mais il ne sait pas encore qui y va. Alors que le procès en irresponsabilité est ouvert par Matignon et Solferino, la fronde, téméraire dans la rue, semble avoir vécu. La bataille chez les socialistes a trouvé un nouveau ring, bien plus matelassé, celui de la primaire.
Les manifestations contre la loi travail émaillées de violence, on s'en souvient au printemps dernier. À Nantes, les commerçants commencent à se barricader par crainte d'éventuelles dégradations aujourd'hui. Toujours en Loire-Atlantique, l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se précise. Le préfet vient de signer un arrêté autorisant l'évacuation du campagnol amphibie du site de Notre-Dame-des-Landes. Une espèce protégée dont la présence bloquait le démarrage des travaux pour le projet d'aéroport. Travaux annoncés dès le mois d'octobre par le Premier ministre Manuel Valls. C'est la troisième interpellation en une semaine d'un mineur en contact avec le djihadiste français Rachid Kassim du groupe État islamique via la messagerie cryptée Telegram. Un adolescent soupçonné de vouloir commettre un attentat a été arrêté hier à Paris. La lutte contre le terrorisme, l'une des pistes que les 27 chefs d'État et de gouvernement européens vont explorer demain au sommet de Bratislava, sommet post-Brexit, préparé dès aujourd'hui par le couple franco-allemand. La chancelière Angela Merkel est reçue à l'Élysée par François Hollande. Une défense européenne, un espace commun de sécurité pourrait aider à définir les contours de la future Europe sans le Royaume-Uni. C'est en tout cas l'avis du commissaire européen Pierre Moscovici.
Il y a la sécurité intérieure, cette union de la sécurité intérieure que nous voulons créer avec un renforcement de toutes sortes de contrôles aux frontières qui doivent être mieux maîtrisés. Et là-dessus, nous sommes très actifs, lutte contre les armes à feu, criminalisation du djihadisme, lutte contre la radicalisation, lutte contre le financement du terrorisme, amélioration du contrôle des fichiers de passagers, et nous allons aller encore plus loin dans ce domaine. Et il y a également la sécurité extérieure. Je pense qu'il y a des percées très importantes qui sont faites en matière de proposition d'une Europe de la défense. Ça fait longtemps qu'on en parle, 60 ans maintenant. Et je pense que nous arrivons à un moment où nous sentons bien que l'Europe doit être protectrice, qu'elle doit être capable d'assurer la sécurité des citoyens, aussi de mutualiser un certain nombre de fonctions de défense commune. Et la proposition d'un fonds pour développer la recherche, l'innovation dans le domaine de la défense va tout à fait dans ce sens-là. Je crois qu'il y a une vraie feuille de route là qui est donnée.
Le commissaire européen Pierre Moscovici, interrogé par Quentin Dickinson, correspondant de France Culture à Bruxelles. Un super monstre, c'est ainsi que le député européen José Bové a qualifié hier le rachat de Monsanto, fabricant américain de pesticides et de semences, OGM, par le chimiste allemand Bayer. Un mariage à 59 milliards d'euros, fustigé à la fois par les défenseurs de l'environnement et par les agriculteurs. Ils craignent une dépendance accrue à ce géant ainsi qu'une hausse des prix.
7h08 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. Au Brésil, moins de 15 jours après la destitution de Dilma Rousseff, le parquet brésilien a demandé la mise en examen de son parrain politique.
L'ex-président Lula, accusé par le parquet d'être le chef suprême du réseau de corruption dans le scandale Petrobras. On y revient dans le journal de 7h30. Elle est entrée en vigueur il y a plus de 48 heures. La trêve en Syrie semble tenir, avec certes des incidents, mais une chute d'intensité des violences. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, demande maintenant à Washington et Moscou d'aider à débloquer la livraison de l'aide humanitaire aux localités assiégées de Syrie. Une priorité également pour Fanny Petitbon de l'ONG CARE.
Il y a environ 600 000 personnes à travers tout le territoire syrien, donc ils sont répartis dans une vingtaine de zones assiégées qui sont toujours en aide, en besoin d'une aide humanitaire cruciale. Il y a aussi 5,5 millions de personnes qui sont toujours dans des zones difficiles à atteindre et qui n'ont pas encore accès à cette aide. Alors les besoins prioritaires, c'est essentiellement farine, légumes, etc. Des besoins en termes d'essence également, pour faire fonctionner les générateurs pour les centres médicaux. Les médicaments manquent aussi cruellement.
À quel moment de la trêve cet acheminement de l'aide va commencer ?
Ce qu'on anticipe, c'est que d'ici la fin de semaine, les premiers convois devraient atteindre les zones assiégées, avec donc en priorité Alep, c'est l'aide humanitaire acheminée par les Nations Unies. Donc on n'a pas encore de détails, nous, en tant qu'ONG, sur comment on va pouvoir réaliser notre travail avec nos partenaires locaux. Donc on pourra vraiment avoir une idée sur le succès ou en tout cas des premiers résultats concrets seulement d'ici, on pense, jeudi ou vendredi.
Fanny Petitbon de l'ONG CARE était interrogée par Nadine Epstein. Aux États-Unis, Barack Obama a annoncé hier à Washington, en présence d'Aung San Suu Kyi, la levée prochaine des sanctions visant la Birmanie, pays qui a effectué une transition démocratique après des décennies d'isolement. Mais des activistes s'opposent à la levée de ces sanctions sur les militaires birmans en raison des conflits ethniques encore trop nombreux dans le pays. La correspondance de Rémi Favre à Rangoon pour RFI et France Culture.
Elle ne peut pas entreprendre une réforme d'envergure sans leur aval. Aung San Suu Kyi a besoin des militaires qui disposent du droit de veto au Parlement. Il faut donc les satisfaire. La conseillère d'État birmane accepte de lever les sanctions économiques. Une mesure qui devrait relancer en Birmanie les secteurs qui dépendent des exportations, notamment le textile et les industries extractives, hydrocarbures et pierres précieuses, des secteurs dominés par les militaires et les proches des généraux. Aung San Suu Kyi leur fait donc un cadeau, alors que l'armée birmane est pourtant impliquée dans de nombreux conflits ethniques et accusée de graves violations des droits de l'homme au nord du pays. De nombreuses associations appelaient d'ailleurs les États-Unis à maintenir intact le régime des sanctions sur la Birmanie. Depuis son retour sur la scène politique en 2012, Aung San Suu Kyi cherche à courtiser les militaires. Elle n'attend pas qu'ils fassent preuve de bonne volonté en matière de démocratisation. Elle prend les devants, elle leur accorde des privilèges, quitte à irriter les défenseurs des droits de l'homme. Cette stratégie a plutôt porté ses fruits ces dernières années. Les militaires ont accepté de transférer une partie du pouvoir à un gouvernement civil, preuve qu'ils ont désormais confiance en Aung San Suu Kyi.
Rémi Favre à Rangoon pour RFI et France Culture. Retour en France avec une voix qui s'est éteinte.
L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou, quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme serait.
Pas comme tout à l'heure.
Pour vous épargner, justement.
Mais pas du tout.
Et c'est Anne Germain que l'on entend la voix chantée de Catherine Deneuve dans Peau d'âne et Les Demoiselles de Rochefort. Elle nous a quittés hier à l'âge de 81 ans. Grande voix également du doublage français, notamment pour Disney dans Les Aristochats ou encore Mary Poppins. À 8h45, Zoé Sfez reviendra sur la carrière d'Anne Germain dans le journal de la culture.
En attendant, c'est plutôt les parapluies de Cherbourg.
Avec le temps de ce jeudi 15 septembre, pluvieux dans la moitié nord du pays, orageux au sud. Des orages précédents ont privé d'électricité plus de 14 000 foyers sur tout le territoire. Les températures maximales sont en baisse. Cet après-midi, de 19 à 23 degrés en général, de 24 à 27 près des frontières du Nord, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Catherine Duzun. Dans quelques instants, le billet écho de Marie Viennot, laquelle reviendra sur un mariage moins romantique que Peau d'âne, celui entre Monsanto et Bayer. Puis, nous poserons la question suivante. Est-il possible juridiquement d'en fermer les fichiers S avec le professeur de droit constitutionnel Bertrand Mathieu.